Nous abordons maintenant la séance elle-même. Chers consoeurs, chers confrères, depuis le début de cette année dédiée à la transformation géopolitique du monde, j'ai eu le souci, pour traiter chaque sujet, lundi après lundi, de donner la parole à des acteurs de terrain, en l'occurrence à nos ambassadeurs dans les pays concernés, venus de Pékin, de Kiev ou de Brasilia. Mais la transformation géopolitique du monde ne se limite pas aux relations internationales entre États. Elle concerne au moins autant l'économie et en particulier la géopolitique de l'intelligence artificielle. Pour traiter ce sujet essentiel pour notre avenir, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui un acteur de premier plan en France et en Europe, le président de CHAPS Vision, Olivier Dellenbach. Pour mesurer l'importance de son action pour la France et pour l'Europe, en une seule phrase, je dirais qu'Olivier est l'homme qui construit la seule alternative existante aujourd'hui à Palantir et son créateur Peter Thiel. C'est dire toute l'importance de son intervention aujourd'hui devant nous. Quelques mots sur le parcours d'Olivier Dellenbach. Né à Strasbourg en 1961, sa mère, ingénieure, renonce à exercer sa profession pour se consacrer à son éducation. Pendant ses études, il réussit à fabriquer lui-même, en préparant son diplôme de polytechnique, un ordinateur. Après quelques années dans le conseil, il crée NAT System, un éditeur de logiciels revendu quelques années plus tard. En 1999, il fonde eFront, également un éditeur de logiciels qui connaît un succès exceptionnel. En 20 ans, eFront devient le leader mondial dans son secteur avec, au moment de sa cession, plus de 850 collaborateurs, 800 clients, une présence dans plus de 30 pays. En avril 2019, Olivier Dellenbach revend eFront pour 1,5 milliard de dollars et, un mois plus tard, il crée CHAPS Vision, avec comme objectif d'en faire rapidement un éditeur souverain européen par croissance organique et par acquisition ciblée. En 2021, il élargit l'activité de CHAPS Vision avec pour ambition de servir les États dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité intérieure, de la défense et du renseignement. 5 ans après sa création, le groupe CHAPS Vision compte 1000 collaborateurs et plus de 2000 clients grands comptes. Le 16 juin dernier, Sébastien Lecornu a annoncé que CHAPS Vision était retenu par la DGSI pour remplacer progressivement la société américaine Palantir de Peter Thiel. CHAPS Vision se développe au même rythme impressionnant au niveau européen. Je dois préciser qu'Olivier Dellenbach m'a demandé il y a 2 ans de présider le comité d'éthique de CHAPS Vision qui doit décider dans quel pays la société peut ou ne peut pas accepter de signer des contrats et sous quelles conditions. Enfin, en 2019, Olivier Dellenbach et son épouse Béatrice ont cofondé Apicap, une fondation dédié à soutenir les personnes en situation de handicap mental et leurs familles. Cher ami, cher Olivier, le temps est venu de vous écouter.
Monsieur le Président, cher Jean-David, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens. L'intelligence artificielle, au cœur de la révolution que nous vivons au quotidien, s'apprête à redéfinir en profondeur et durablement l'équilibre entre les puissances mondiales. Nous entendons parler chaque jour, à la radio, dans les journaux, dans les discours politiques. Et chaque semaine apporte son lot d'avancées techniques, de préoccupations nouvelles et de débats publics. Cette révolution est en cours et elle demeure entourée de nombreuses incertitudes quant à ses conséquences. Je vous propose aujourd'hui d'en esquisser une lecture, celle des transformations qu'elle impose à l'ordre géopolitique. Nous examinerons d'abord ses implications les plus visibles, notamment la compétition pour les ressources tout au long de la chaîne de valeur de l'IA, déjà perceptible dans les tensions entre les grandes puissances. Puis, dans un second temps, et de manière plus préoccupante à mes yeux, nous verrons comment ces nouveaux équilibres pourraient profondément reconfigurer nos modèles de société. Car si les équilibres géopolitiques du XXe siècle ont largement été structurés par le pétrole, le XXIe sera celui de l'intelligence artificielle. Et son véritable carburant n'est pas l'algorithme, mais l'électricité. Cet enjeu est majeur et nous y reviendrons. Mais c'est ici que je souhaite infléchir le propos. Je ne crois pas qu'il constitue le risque principal. Les États demeurent des acteurs rationnels, liés par une interdépendance dense qui rend le risque de conflit, sinon nul, du moins maîtrisable, à condition que chacun sache affirmer ses atouts. Le véritable danger, selon moi, se situe ailleurs. Il se trouve même au cœur même de nos sociétés. La transformation du travail sous l'effet de l'intelligence artificielle, combinée à une concentration accrue des gains économiques, porte en elle les germes d'un déséquilibre profond. Une minorité capte la valeur, tandis qu'une majorité s'expose à un risque de déclassement. L'histoire nous enseigne que de telles dynamiques nourrissent tensions, montée des populismes, recherche de boucs émissaires, l'étranger, le riche, l'immigré, et parfois basculent vers le conflit. Ceux qui maîtriseront l'IA pourraient en sortir militairement dominants, mais au service de quel modèle de société et au prix de quelle fracture. Voici donc le chemin que je vous propose de suivre. Comprendre d'abord le nouveau langage de la puissance, analyser les équilibres qui se dessinent le long de la chaîne de valeur de l'IA et montrer en quoi l'interdépendance entre États rend le risque géopolitique en partie gouvernable, puis identifier ce qui constitue, à mes yeux, le véritable péril, la fracture sociale. Enfin, esquisser des pistes d'action pour que la France et l'Europe puissent s'inscrire dans ce nouvel ordre sans se fragmenter. Permettez-moi, pour commencer, une précision de méthode. La géopolitique peut être définie comme l'étude des implications politiques de la géographie. Yves Lacoste y voyait une manière de voir le monde, dépassant la seule lecture économique pour interroger les logiques de puissance. Or, l'intelligence artificielle transforme simultanément les dimensions militaires, économiques et informationnelles. Je prendrai donc ici la géopolitique au sens large, incluant la stabilité interne des sociétés. Il semble important de mentionner la singularité de l'IA, qui tient à sa vitesse. Là où la machine à vapeur a mis près de 80 ans à transformer l'économie, l'IA pourrait atteindre une adoption massive en quelques années, soit une accélération d'un facteur sans précédent. Retenez bien ce point essentiel. C'est cette rapidité qui prive les sociétés du temps nécessaire pour s'adapter. Et c'est de ce manque de temps que va naître le risque. Pour comprendre la révolution de l'intelligence artificielle et ses implications sur nos sociétés, il est utile de revenir un siècle en arrière et de regarder le pétrole. Le pétrole a structuré les équilibres du XXe siècle. Il a dicté les alliances, dessiné les routes commerciales, orienté les stratégies militaires et façonné les hiérarchies mondiales. Il a porté la puissance américaine, enrichi les monarchies du Golfe, soutenu l'expansion soviétique. Le pétrole n'était pas simplement une énergie, c'était un système de puissance. Alors pour comprendre où se situe le pouvoir aujourd'hui, il faut d'abord se méfier des formules trop simples. On entend souvent que les données sont le nouveau pétrole, ou que ce sont les puces, ou le cloud. Ces images sont parlantes, mais elles brouillent plus qu'elles n'éclairent. Je vous propose une autre lecture, une autre grille de lecture, celle d'une usine. Une usine, c'est quatre choses. Du carburant qui la fait tourner, une machine qui transforme ce carburant en travail utile, un lieu qui concentre cette production et un produit qui en sort. Bien sûr, animé par des hommes, des femmes, des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, des chefs d'entreprise. Si on transforme ce modèle à l'intelligence artificielle, le carburant, c'est l'électricité. Pas n'importe laquelle, on espère, une électricité abondante, bon marché, pilotable, idéalement décarbonée, disponible à très grande échelle. C'est à long terme peut-être le prochain verrou. La machine ensuite. Machine, ce sont les processeurs, les microprocesseurs, les GPU. Sans puissance de calcul, pas d'intelligence artificielle. Or, cette capacité est aujourd'hui fortement concentrée, notamment à Taïwan, où la société TSMC produit l'essentiel des puces les plus avancées. Un véritable bouclier de silicium qui protège l'île tout en rendant le reste du monde complètement dépendant. L'usine, c'est le cloud. C'est l'infrastructure qui stocke, entraîne et déploie le modèle. En Europe, elle est dominée à près de 70% par trois acteurs américains, tandis que les fournisseurs européens sont tombés sous les 15%. La matière première, ce sont les données. Non pas le carburant, mais le minerai brut que l'on va transformer grâce à l'intelligence artificielle en connaissance. Gardez bien cette grille en tête. Quand je parlerai d'énergie, je parlerai du carburant. Des semi-conducteurs, ce sont les machines. Amazon, Microsoft, Google, ce sont les usines qui permettent de créer de la connaissance à partir d'un minerai brut qui est la donnée. Or, sur cette chaîne de valeur, une bascule est en train de se produire et elle change tout. Nous quittons une intelligence artificielle qui répond pour rentrer dans une IA qui agit. Vous connaissez tous ChatGPT, tout le monde utilise, tous vos enfants utilisent, les petits-enfants utilisent ChatGPT. On lui pose des questions, on y répond. Maintenant, on rentre dans une IA qui agit, qui ne répond pas, qui agit. C'est ce qu'on appelle l'IA agentique. Ce sont des systèmes capables non seulement de répondre à une question, mais de planifier, de décider et d'exécuter des tâches complexes de bout en bout, avec une supervision humaine de plus en plus réduite. Autrement dit, le logiciel n'attend plus vos instructions. Il commence à travailler à notre place, et donc à remplacer une partie de la contribution humaine dans cette chaîne. Et l'adoption de l'agentique est extrêmement rapide. Selon Gartner, 40% des applications d'entreprise intégreront des agents IA d'ici fin de cette année, contre moins de 5% l'année dernière. Une multiplication par 8 en moins d'un an. À l'horizon de 2028, dans certains métiers, ces agents pourraient être 10 fois plus nombreux que les humains. Retenez bien cette transition de l'assistant à l'agent autonome. C'est elle qui fait basculer l'intelligence artificielle d'un sujet technique à un sujet profondément social et politique. Car lui aussi, là aussi, le pouvoir se déplace. Pendant des siècles, le pouvoir était détenu principalement par les États. Aujourd'hui, une poignée d'entreprises technologiques disposent de ressources comparables à celles des plus grandes nations, d'infrastructures utilisées par des milliards d'individus et d'une capacité d'influence sur l'information qui redéfinit ce que Joseph Nye appelait le « soft power ». Le pouvoir n'est plus simplement militaire ou économique, il devient aussi informationnel et fait de nouveau très largement privé. Regardons maintenant comment ce pouvoir se distribue. Les États-Unis d'abord. Ils occupent aujourd'hui une position comparable à celle qu'ils avaient à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ils concentrent à la fois les principaux laboratoires de recherche, les grands acteurs du cloud, les fonds d'investissement, les modèles les plus avancés et une part considérable des meilleurs talents mondiaux. Cette domination repose sur une alliance unique entre universités, États, armées et capital risque. La Silicon Valley n'est pas apparue par hasard. Elle est le fruit de plusieurs décennies d'investissements coordonnés. Mais leur véritable force est ailleurs. Les États-Unis n'offrent pas seulement, ils attirent l'innovation mondiale. Les meilleurs talents européens, asiatiques, moyen-orientaux convergent tous les jours vers cet écosystème. La première puissance de l'IA n'est pas seulement celle qui forme, c'est celle qui aujourd'hui attire. Face à eux, la Chine. C'est la seule puissance disposant de la taille critique pour rivaliser, mais avec un modèle très différent. Là où les États-Unis reposent sur l'initiative privée, la Chine s'appuie sur la planification stratégique. Depuis 2017, Pékin a fait de l'IA une priorité nationale, avec un objectif clair, devenir le leader mondial d'ici 2030. Ses atouts sont considérables. Un marché intérieur immense, une capacité de planification de long terme, une masse de données exceptionnelle et une très forte intégration entre le civil et le militaire. Malgré les restrictions américaines sur les puces, des acteurs comme DeepSeek ont montré la capacité chinoise à produire des modèles performants à coût réduit. Petite anecdote, je crois qu'aujourd'hui, la Chine publie plus de brevets que les États-Unis, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais une faiblesse demeure, l'accès aux semi-conducteurs de pointe. Et c'est là que se joue une partie essentielle du rapport de force. La guerre des puces est en réalité la guerre du pétrole du XXIe siècle. L'Europe maintenant, c'est sans doute le cas le plus paradoxal. L'Europe dispose d'un marché de 450 millions d'habitants, d'un PIB comparable à celui des États-Unis, de centres de recherche de premier plan et d'une base industrielle solide. Elle possède même un actif stratégique unique, le hollandais ASML, qui détient un quasi-monopole sur les machines indispensables à la fabrication des puces les plus avancées. Sans ASML, aucune puce de pointe. Autrement dit, l'Europe contrôle la machine qui fabrique les machines. Elle forme également certains des meilleurs scientifiques au monde. Et pourtant, elle n'a pas fait émerger de géants comparables à Google, Amazon, Microsoft ou Nvidia. L'Europe est une puissance scientifique, industrielle et réglementaire, mais n'est pas une puissance numérique. Enfin, d'autres acteurs émergent. L'Inde s'impose comme un immense réservoir de talents technologiques. Israël reste un leader dans les technologies de la sécurité et les innovations duales. Les pays du Golfe, eux, cherchent à transformer leur rente pétrolière en rente numérique, avec un avantage clé, une énergie abondante à bon marché, précisément au cœur de l'économie de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a les absents. Comme dans toute révolution industrielle, certains territoires risquent de rester à l'écart. Une partie de l'Afrique et de l'Amérique latine pourrait se retrouver en position de simple consommatrice de technologies conçues ailleurs. L'histoire est claire. Les nations qui manquent une révolution technologique mettent souvent plusieurs générations ensuite à combler leur retard. J'en viens maintenant au premier volet de ma thèse, celle que je veux paradoxalement dédramatiser. C'est intéressant d'ailleurs que le livre qui nous a été recommandé reprend un peu ces éléments que je vais présenter. On nous parle d'une nouvelle guerre froide technologique. Et au fond, c'est vrai. Mais je voudrais vous montrer pourquoi, entre États, ce risque a de bonnes chances d'être maîtrisé. Le monde aujourd'hui se structure autour d'une bipolarité croissante. D'un côté, les États-Unis, une véritable hyperpuissance. Leur force ne tient pas seulement à leur capacité à former les meilleurs talents, mais à attirer, comme je l'ai dit, ceux du monde entier, chercheurs européens, chinois, indiens, israéliens. Beaucoup finissent par converger vers cet écosystème. De l'autre, la Chine, le rival systémique, un modèle différent, fondé sur une planification stratégique, une ambition claire, le leadership mondial d'ici 2030. Et malgré les restrictions américaines sur les semi-conducteurs, la Chine a démontré sa résilience, notamment avec des modèles performants développés à moindre coût. À première vue, tout semble réuni pour une escalade. Et l'histoire nous offre d'ailleurs un précédent inquiétant. En 1941, le Japon dépendait entièrement du pétrole importé. Lorsque les États-Unis ont imposé un embargo et gelé ses avoirs, le pays s'est retrouvé privé de sa ressource vitale. Il a fait alors le choix de la guerre plutôt que celle du recul. Ce sera Pearl Harbor. La question est donc légitime. Sommes-nous en train de rejouer ce scénario ? Car aujourd'hui, que font les États-Unis ? Ils restreignent l'accès de la Chine aux semi-conducteurs de pointe, c'est-à-dire à la machine sans laquelle il n'y a pas d'intelligence artificielle avancée. Est-ce que l'embargo sur les puces sera l'embargo pétrolier que l'on a connu dans les années 40 ? Je ne crois pas, et c'est un point central. Contrairement au pétrole, une puce n'est pas une ressource finie que l'on extrait. C'est une technologie que l'on peut contourner, optimiser, réinventer. L'exemple de DeepSeek l'a montré. Privée des meilleurs composants, la Chine a tout de même réussi à produire des modèles compétitifs. Un embargo sur le carburant affame. Un embargo sur la machine, pousse à innover. Autrement dit, le blocus du XXIe siècle est à double tranchant. Il affaiblit certes, mais il stimule aussi la Chine. Et c'est précisément ce qui en limite l'efficacité et réduit, à mon sens, le risque d'un basculement brutal de type Pearl Harbor. Mais il y a plus profond encore. Nous vivons dans un monde d'interdépendance extrême, extrêmement dense. Et c'est cela, en réalité, qui stabilise le système. Regardez la chaîne. Les États-Unis conçoivent des modèles, mais dépendent de Taïwan pour la production des puces les plus avancées. Taïwan dépend du hollandais ASML, entreprise européenne, qui est elle-même en quasi-monopole sur les machines de lithographie. Le hollandais ASML dépend de fournisseurs allemands tels que Zeiss pour l'optique, d'autres japonais, d'autres américains. Et la Chine, de son côté, reste un marché incontournable et contrôle une partie essentielle du raffinage des terres rares. Je devrais rajouter que la plupart des environnements cloud sont faits d'ordinateurs qui sont eux-mêmes construits en Chine. Tout cela pour dire qu'aucun acteur n'est autonome. Et c'est précisément cette dépendance croisée qui crée une forme d'équilibre. Nous retrouvons ici une logique bien connue des stratèges. Chacun peut nuire à l'autre, donc chacun se retient. Une forme de destruction mutuelle assurée, mais appliquée aux chaînes de valeur technologique. À une condition toutefois, et j'y insiste, chaque acteur doit être lucide sur ses propres leviers de puissance et capable de les mobiliser. Une puissance qui ne connaît pas ses atouts s'affaiblit. Une puissance qui les comprend et les utilise s'inscrit dans cet équilibre. Et ça, c'est un message pour l'Europe. J'en viens maintenant à un point que l'on place souvent au centre du débat, l'énergie. Oui, l'électricité sera une ressource critique des prochaines décennies. En 2026, les centres de données consomment déjà plus de 1000 TWh par an, soit l'équivalent, il faut une image compréhensible, l'équivalent à peu près de la consommation en électricité du Japon. Et cette demande pourrait presque doubler d'ici 2030. Un data center, quand on essaye de les déployer partout, consomme à peu près autant d'électricité qu'une ville de 1 million d'habitants, pour vous donner un ordre de grandeur. Les acteurs privés, d'ailleurs, l'ont parfaitement compris. Microsoft investit dans le redémarrage de centrales nucléaires. Une petite anecdote, hein, ils ont signé un contrat avec l'État américain pour remettre en place Three Mile Islands. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Three Mile Islands, c'était la centrale nucléaire qui avait eu un accident majeur en 1979, qui avait été arrêté, et Microsoft a obtenu l'autorisation par l'État américain, financée par Microsoft, de la relancer pour son propre usage. Amazon aussi engage des dizaines de milliards pour sécuriser son accès à l'énergie. Lorsque les grandes entreprises technologiques commencent à acheter de l'électricité comme on achetait autrefois du pétrole, la comparaison cesse d'être une métaphore. Oui, la géopolitique de l'IA est aussi une géopolitique des ressources physiques, énergie, l'eau que l'on oublie souvent, pour refroidir en fait les machines, les métaux critiques, les terres rares. Mais c'est là le point clé. De mon point de vue, ce sont des problèmes que les États savent gérer. On construit des centrales, on diversifie les approvisionnements, on négocie, on investit. C'est complexe, c'est coûteux, parfois conflictuel, mais cela relève des instruments classiques de la puissance publique. L'Allemagne, quand elle a été privée du gaz russe, a su trouver des alternatives pour continuer à faire tourner ses industries. Autrement dit, c'est difficile, mais gouvernable. D'autant plus que cette contrainte pourrait évoluer. Les technologies deviennent plus efficaces et moins énergivores. D'autres paradigmes, comme le quantique, à plus long terme, pourraient rebattre les cartes en réduisant la dépendance à la puissance de calcul brut. Après tout, il faut se rappeler toujours que si on utilise encore massivement le pétrole aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il reste abondant et relativement coûteux. S'il était beaucoup plus cher, je n'ai aucun doute sur le fait que nos ingénieurs auraient depuis longtemps su trouver des alternatives au pétrole. L'histoire montre que les systèmes énergétiques basculent lorsque de meilleures alternatives deviennent disponibles. C'est pour ça que, selon moi, le risque majeur n'est pas là. Il n'est pas dans la rivalité entre les puissances. Il est dans ce que cette révolution produit à l'intérieur et va produire à l'intérieur même de nos sociétés. Et c'est à ce cœur du problème que je voudrais maintenant consacrer la suite de mon propos. Mesdames et messieurs, c'est ici que je souhaite m'arrêter le plus longuement. car la géopolitique classique commet, à mon sens, une erreur de focale. Elle se concentre sur les États et sous-estime un autre acteur décisif, longtemps négligé, qui peut tout faire basculer, la société. Une société qui se sent déclassée, trahie ou méprisée, devient un acteur historique de premier plan. L'histoire du XVIIIe au XXe siècle l'a montré à de multiples reprises. La question n'est donc pas seulement qui contrôlera l'IA, mais aussi quel sera l'effet de cette transformation sur le contrat social, le travail et la dignité des individus. Ma thèse est que l'intelligence artificielle, par sa nature et par sa vitesse, réunit plusieurs ingrédients d'une tension sociale majeure. J'en distingue trois. Le choc des cols blancs, l'explosion potentielle des inégalités et sa vitesse à se mettre en place. La première rupture est inédite. Les grandes révolutions industrielles ont toujours d'abord frappé le travail manuel, l'agriculture, l'usine, les tâches physiques, les emplois qualifiés, les professions intermédiaires, la classe moyenne éduquée en sont souvent, enfin dans la plupart des cas, sortis renforcés en fait. Cette fois, le mouvement est inversé. Pour la première fois, une révolution technologique cible d'abord des tâches cognitives, comptables, juristes, analystes, développeurs, rédacteurs, avocats, consultants, médecins. Autrement dit, le cœur de la classe moyenne qualifiée qui constitue l'ossature de nos démocraties. Les estimations varient, mais l'ordre de grandeur est significatif. Plusieurs centaines de millions d'emplois dans le monde sont exposés, au moins partiellement, à l'automatisation par l'intelligence artificielle. Une large part des heures de travail dans les économies avancées pourrait techniquement être automatisée. Un rapport McKinsey que j'ai lu récemment, tous les grands cabinets sortent des rapports tous les jours sur ces sujets-là, estime qu'aux États-Unis, jusqu'à 57% en fait, des heures travaillées aux États-Unis pourraient être menacées par l'intelligence artificielle. Dans de nombreux métiers, une fraction importante des tâches est déjà délégable à l'IA. Il faut ici introduire des nuances essentielles. Une minorité seulement des tâches est aujourd'hui entièrement automatisable. Et l'IA transformera sans doute davantage les métiers qu'elle ne les fera disparaître. Mais la question centrale n'est plus seulement combien, mais à quel rythme. Là où les révolutions précédentes, comme je le disais, se déployaient sur deux ou trois générations, celle-ci pourrait se jouer à l'échelle d'une carrière, voire d'une décennie. Le temps d'ajustement pour les individus, comme pour les institutions, s'en trouve considérablement réduit. Joseph Schumpeter parlait de destruction créatrice. Les technologies détruisent certains emplois, mais en créent d'autres, souvent plus qualifiés. Cela a été largement vérifié pour la vapeur, l'électricité, l'informatique. Mais cette dynamique n'est pas une loi naturelle. Comme le rappelle Darren Acemoglu, une technologie peut soit augmenter le travailleur, soit essentiellement le remplacer. Dans le premier cas, les gains sont largement partagés. Dans le second, ils se concentrent chez ceux qui possèdent les machines, les modèles et les infrastructures. La question qui se pose est donc la suivante. Dans quelle mesure l'IA sera-t-elle principale un outil d'augmentation ou un outil de substitution? Et surtout, la création d'emplois et de fonctions nouvelles suivra-t-elle le rythme des destructions et des recompositions? Deuxième mécanisme que je voulais mettre en avant, c'est la distribution de la valeur. L'IA n'est pas neutre par construction dans la répartition des richesses. Elle repose sur des investissements massifs et des effets d'échelle considérables. Ceux qui possèdent les modèles, les puces, les centres de données et les données captent une part croissante de la valeur ajoutée. Ceux qui ne disposent que de leur force de travail cognitive voient potentiellement leur pouvoir de négociation se réduire. Le rapport entre capital et travail, déjà tendu depuis plusieurs décennies, pourrait ainsi davantage se déplacer en faveur du capital. Non pas de manière abstraite, mais très concrètement. Quelques entreprises, quelques fondateurs, quelques grands actionnaires concentrent des positions économiques sans précédent, pendant qu'une partie des classes moyennes qualifiées voit sa valeur relative mise sous pression. Ce phénomène ne se résume pas à une question de revenus. Il touche à l'identité. Dans nos sociétés, le travail reste un vecteur central de reconnaissance, de statut et d'intégration. Quand un individu a le sentiment que son expertise se déprécie rapidement, que sa trajectoire sociale se ferme, le ressentiment ne vise pas seulement la situation économique. Il interroge même la légitimité du système. De nombreux auteurs l'ont montré, d'Aristote à Tocqueville. Les sociétés n'acceptent pas indéfiniment des écarts qui se croisent trop vite, surtout lorsque ces écarts sont perçus comme injustes ou arbitraires. Karl Polanyi, dans La Grande Transformation, a décrit ce mécanisme. Lorsqu'un marché dérégulé met sous tension le corps social, celui-ci finit par chercher des formes de protection, parfois démocratiques, souvent autoritaires. L'enjeu ici est de savoir si l'IA sera intégrée dans un cadre qui redistribue une partie de ses gains ou si elle renforcera des dynamiques de rente qui sont déjà à l'œuvre. Troisième élément que je voulais mettre en avant, c'est le passage vraiment de l'abstrait au concret. Une révolution technologique, c'est un concept lointain, tant qu'elle ne modifie pas la vie quotidienne. Ce qui déclenche des réactions politiques fortes, ce n'est pas une courbe macroéconomique, c'est l'expérience directe d'un déséquilibre ressenti par le citoyen. Or, dans le cas de l'intelligence artificielle, cette expérience commence à se matérialiser. D'un côté, l'intelligence artificielle consomme des ressources physiques colossales, électricité, eau, métaux. Dans certaines régions, la concentration de centres de données exerce déjà une pression visible sur les infrastructures et parfois sur les prix de l'énergie. Pour un citoyen, voir sa facture augmenter tout en entendant que cette hausse est liée à des infrastructures qui servent d'abord de grands acteurs mondiaux peut nourrir une impression de décalage, voire d'injustice. On le voit aux États-Unis aujourd'hui dans plein d'États, dans lesquels la mise en place de data centers crée un énorme problème auprès des différents habitants. De l'autre, le pouvoir de décision se déplace en partie vers quelques grands acteurs privés globaux. Des décisions prises par un petit nombre d'entreprises, parfois sous contrainte de régulation nationale étrangère, peuvent avoir des effets immédiats sur l'accès aux services numériques dans d'autres régions du monde. Là encore, pour l'utilisateur final, le message est implicite peut-être. Les outils que j'utilise au quotidien, dont dépend mon travail, peuvent être coupés ou modifiés loin de moi, sans que mes représentants politiques aient réellement prise sur ces choix. Ce double sentiment, pression économique d'un côté, perte de contrôle de l'autre, constitue un terreau classique de tensions politiques. Il peut alimenter des récits simplificateurs, désigner des responsables faciles et fragiliser la confiance dans les institutions. Je vais parler maintenant de la tension sociale au risque politique. Si on met bout à bout ces trois dynamiques, transformation rapide du travail qualifié, concentration potentielle des gains, expérience quotidienne de désajustement, on retrouve toutes les conditions typiques d'une montée des discours populistes. Le populisme, dans ces contextes, propose des explications simples à des phénomènes complexes. Il remplace des chaînes de causalité longues par des coupables identifiables. Non pas une révolution technologique mondiale reconfigure les rapports entre capital et travail, mais c'est la faute de l'étranger, du riche, de l'élite mondialisée, du système. C'est une mécanique bien connue des années 30, mais que l'on retrouve sous d'autres formes dans de nombreuses démocraties contemporaines. L'IA en tant que telle n'est pas la cause unique de ces tensions, mais elle peut en être un accélérateur. Et c'est ici que mon propos rejoint la partie précédente. Je vous disais que l'interdépendance entre États rendait le risque de conflit direct relativement maîtrisable. C'est vrai tant que les régimes restent guidés par des logiques de stabilité et de coopération minimale et sensibles au coût d'un conflit et aux contraintes de l'interdépendance. Mais si des chocs sociaux internes significatifs amènent au pouvoir des forces politiques dont le registre privilégié est celui de la confrontation, de la désignation de bouc émissaire et du geste de rupture, alors la mécanique de l'interdépendance peut être mise sous tension. Autrement dit, le principal risque géopolitique lié à l'IA ne vient peut-être pas d'un affrontement frontal pour des puces ou des mégawatts, mais de la manière dont cette transformation peut reconfigurer nos équilibres politiques internes et par ricochet nos comportements externes. Dans ce scénario, ceux qui maîtriseront l'IA pourront en effet conserver un avantage stratégique et militaire. Mais la question devient, sur quel type de société, avec quelles institutions et avec quel modèle de vie collective? Et qui seront ces vainqueurs? Un Peter Thiel, avec ses fantasmes sur un gouvernement mondial démoniaque, où l'ennemi est diffus, impur, mondialiste, et l'issue passe par une minorité d'initiés technologiques qui auraient accès à la vraie connaissance. Un Alex Karp,
CEO et fondateur de Palantir, qui prône la militarisation de la technique, définit une hiérarchie explicite entre civilisations, promeut la centralité de l'État fort, pousse à la fusion du secteur privé et des appareils de sécurité, et accepte implicitement des systèmes de tri et de surveillance qui peuvent nourrir des pratiques discriminatoires ou eugéniques. Un Elon Musk, avec sa vision civilisationniste, où l'humanité se divise grosso modo entre ceux qui acceptent une prise de risque technologique extrême, colonisation de Mars, expérimentation neurotech, IA forte, et ceux qui, par faiblesse ou complaisance, condamnent notre espèce à la stagnation et à la disparition. En les mettant côte à côte, on voit émerger plusieurs constantes. Une obsession de la puissance occidentale, pensée en termes de guerre, d'armes stratégiques et de technologies de contrôle, avec l'IA explicitement comparée au nucléaire par Alex Karp. La construction d'ennemis diffus, gouvernement mondial, relativisme, wokisme, faiblesse démocratique, qui justifie des régimes d'exception et des appareils de surveillance quasiment illimités. La glorification d'élites technologiques, comme seules capables de comprendre les enjeux eschatologiques, c'est Peter Thiel, stratégique, Alex Karp, ou civilisationniste, Elon Musk, ce qui ouvre la voie à un pouvoir oligarchique opaque. Le glissement vers des pratiques potentiellement eugéniques, tri algorithmique des populations, technologie d'augmentation, idéologie de puissance, ultra-sélective et hiérarchisation implicite des vies selon un rapport à la survie de l'espèce. Cela ne vous rappelle-t-il rien ? On pourrait évidemment en sourire si ces trois personnes que je viens de citer ne pesaient à travers les entreprises dans lesquelles elles sont directement partie prenante environ 4 trillions de dollars en capitalisation boursière. 4 trillions de dollars sur trois personnes, c'est rapproché des 2,7 trillions d'euros de l'ensemble du CAC 40 ou des 6 trillions de l'ensemble d'Euronext. C'est à cette aune, celle de la stabilité interne et de la capacité à peser dans les interdépendances, que je voudrais maintenant examiner le cas européen et français. Que faire alors ? La réponse tient en deux exigences indissociables. Être assez fort pour exister dans la compétition des puissances et assez juste pour ne pas déchirer notre propre société. La première sans la seconde mène au déclassement, la seconde sans la première à l'impuissance. Commençons par la force, car l'Europe en a les moyens, mais ils dorment. Elle contrôle l'ASML, ce verrou sans lequel aucune puce de pointe n'existe au monde. Elle dispose d'un marché de 450 millions de consommateurs et d'une arme réglementaire que le monde entier observe. Et surtout, et c'est le point le plus important de mon point de vue, elle est assise sur un trésor. Environ 33 000 milliards d'euros d'épargne privée, c'est plus qu'aux États-Unis. Mais voici le paradoxe cruel. Chaque année, près de 300 milliards d'euros de cette épargne quittent l'Union pour aller financer l'économie américaine. Les Européens détiennent au total quelque 14 500 milliards de dollars d'actifs américains, dont 10 400 milliards en actions. Ce qui fait de l'Europe le premier propriétaire étranger de l'économie des États-Unis. En investissement net, si on regarde les investissements européens aux États-Unis et américains en Europe, on a un déficit net de 9 100 milliards de dollars investis par l'Europe aux États-Unis. C'est l'ironie. C'est l'épargne des retraités européens qui finance la Silicon Valley, c'est-à-dire la machine même qui nous rend dépendants. Voici le levier de la dépendance croisée. La bonne stratégie n'est pas l'autarcie. Ce serait une illusion et une régression, car même les États-Unis dépendent d'ASML et de Taïwan. La bonne stratégie, c'est l'interdépendance équilibrée. Faire en sorte que si l'autre peut nous faire du mal, nous puissions le lui rendre. C'est l'équilibre, non l'isolement, qui protège. Mais cet équilibre suppose une volonté que l'Europe n'a pas encore, celle d'utiliser ses leviers, son capital, ses machines critiques, son marché, comme des instruments de puissance et pas simplement comme des objets de régulation. Car regardons les méthodes des autres. Qu'on l'approuve ou non, Donald Trump utilise les leviers américains sans complexe et parfois avec brutalité. Droit de douane, contrôle des exportations, extraterritorialité du droit et désormais ce kill switch sur l'intelligence artificielle. La Chine joue un jeu différent. Elle joue la patience, la planification, le contrôle des terres rares. Face à des puissances qui assument leur dureté, une Europe molle, naïve, qui se contente de réguler les autres sans bâtir ni utiliser ses propres armes, sera contournée puis marginalisée. La souveraineté ne se déclare pas, elle se construit et surtout elle s'exerce. La France, dans ce tableau, dispose d'atouts maîtres. Le premier est mathématique. L'intelligence artificielle est une science mathématique et nous demeurons l'une des grandes nations mathématiques du monde. Le second est énergétique. Avec ses 56 réacteurs, la France possède une électricité décarbonée, abondante et pilotable. Précisément le carburant rare de l'IA. Le nucléaire pourrait être notre gisement pétrolier du XXIe siècle. Mais pour relever un petit peu les annonces qui ont été faites récemment avec, par exemple, SoftBank qui va investir massivement en France pour construire des centres cloud, il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. Posséder cette énergie, posséder le carburant ne suffit pas. Dans l'histoire du pétrole, ce ne sont pas les pays producteurs qui ont prospéré, mais ceux qui maîtrisent le raffinage, la distribution et la finance, c'est-à-dire la valeur aval. Être un pays de centrales nucléaires qui permet d'alimenter des serveurs cloud qui ne nous appartiennent pas, c'est le destin des pays du Moyen-Orient. Sans modèle de pointe, sans cloud souverain, sans application, la France restera un simple producteur de brut, exportant son énergie, exportant ses talents, pour acheter ensuite à prix fort la valeur ajoutée qui sera produite ailleurs. L'enjeu n'est pas d'avoir de l'énergie, l'enjeu c'est de bâtir toute la chaîne au-dessus. Et de mon point de vue, on y reviendra peut-être, on a des atouts dans les technologies de demain, le quantique, le nucléaire, on a des ingénieurs capables d'investir et de fournir les technologies qui seront utilisées de demain. Et c'est ici que mes deux exigences se rejoignent, car la manière dont nous bâtirons cette puissance déterminera si notre société tient ou se déchire. Une IA souveraine, mais qui déclasse nos classes moyennes et concentre les gains, ne ferait que déplacer le problème. La vraie tâche du politique, et c'est à vous, gardiens des sciences morales et politiques que je m'adresse, est de penser dès maintenant la répartition. Comment redistribuer les gains de productivité ? Comment financer la transition des métiers ? Comment former, accompagner, protéger, sans renoncer à innover ? La réponse à la fracture sociale ne viendra pas des ingénieurs. Elle viendra de la politique ou elle ne viendra pas. Je voudrais pour finir revenir à ma thèse et au déplacement que je vous ai proposé. Quand j'ai démarré cette réflexion, j'ai d'abord pensé que le cœur de cette révolution serait l'électricité et que comme au XXe siècle, tout se jouerait principalement entre les nations autour du carburant. Je n'ai pas changé d'avis sur l'importance de l'énergie. En revanche, comme vous l'avez vu, j'ai évolué sur le lieu principal du risque. Entre États, le danger me semble largement maîtrisable. Les interdépendances sont devenues telles, du calcul aux puces, des puces aux machines, des machines aux terres rares, que nul ne peut frapper sans s'exposer lui-même. À condition que chaque acteur identifie clairement ses atouts et les fasse valoir, cet équilibre a probablement de bonnes chances de tenir, malgré quelques à-coups. Le véritable point de diligence se situe en nous. C'est la possibilité que cette révolution, par sa vitesse exceptionnelle, transforme le travail plus vite que nos systèmes ne savent l'accompagner, accentue des écarts déjà sensibles et mette sous tension la cohésion de nos sociétés. Dans ces contextes, l'histoire montre que montrent les discours de défiance, les récits simplificateurs, les désignations de boucs émissaires, et des tensions internes mal maîtrisées finissent toujours, tôt ou tard, par peser sur la stabilité externe. Dans un tel scénario, ceux qui gagneraient la course à l'IA pourraient découvrir qu'ils ont renforcé leur puissance sans avoir réellement consolidé leur modèle de société. L'enjeu n'est donc pas simplement technique, il est d'abord politique et au fond moral. La question n'est pas qui aura la plus grande capacité de calcul, mais saurons-nous adapter nos institutions, notre contrat social et notre économie à une révolution qui réduit le temps d'ajustement. L'IA ne met pas seulement à l'épreuve notre intelligence, elle met à l'épreuve notre capacité collective à organiser ce changement. Nous avons les talents, nous avons l'énergie. Ce qui reste à construire, c'est la lucidité sur nos priorités et la détermination à en tirer des choix concrets. L'histoire montre que les nations qui manquent une grande transformation mettent des générations à en corriger les effets et que les sociétés qui subissent le changement plutôt que de le piloter en sortent considérablement affaiblies. Il nous appartient donc de choisir d'être les architectes de ce nouvel environnement plutôt que ses spectateurs. C'est, je crois, l'une des grandes responsabilités de notre génération. Pour ma part, à travers chaque vision, je m'efforce de contribuer à doter la France et l'Europe de solutions qui, par leur niveau d'exigence et de performance, nous permettent de prendre place dans ce jeu d'interdépendance. Ce que j'appelle notre droit à exister. Non pas dans une vision fermée ou défensive de la souveraineté, mais dans la capacité à nous mesurer au meilleur et à réussir. En gardant aussi à l'esprit le cadre éthique dans lequel nos solutions peuvent se mettre en place. D'ailleurs, pour cette raison que nous avons mis effectivement en place, dès l'origine de la société, un comité éthique présidé par vous, cher Jean-David, pour définir nos règles d'engagement dans le respect de nos valeurs démocratiques européennes. Quant à l'enjeu moral, il dépasse évidemment toute entreprise ou tout individu. Nous pouvons toutefois espérer que l'éducation, le débat démocratique et les leçons de l'histoire nous aideront à orienter cette révolution vers plus de maîtrise et de stabilité, plutôt que vers la précipitation et la rupture. Terminer en disant que nous entrons dans une phase éminemment politique. J'espère que ces préoccupations seront parfois dans le discours de nos candidats. Merci à tous.
Bravo.
Cher Olivier, merci infiniment de cette intervention brillantissime.